Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir petite, insignifiante? Alors aujourd'hui, vous allez être encouragée.
Vous vous sentez peut-être comme un simple pion sur un échiquier qu'on déplace ici ou là. Mais ne sous-estimez jamais la puissance de Dieu, ni l'importance et l'impact potentiel de votre foi, de vos prières, de votre fidélité et de votre obéissance.
Vous écoutez Réveille nos cœurs avec la série « Pour un temps comme celui-ci » qui nous emmène dans l'histoire de la reine Esther. Dans le premier épisode de cette série, vous avez été invité à réfléchir aux questions suivantes. Pourquoi est-ce que Dieu vous a placé dans votre situation actuelle? Comment est-ce que Dieu veut agir à travers vous dans cette situation? Si vous avez manqué ce premier épisode, on vous encourage vivement à l'écouter. Vous pouvez le trouver sur notre site réveillenoscoeurs.com. Alors que Aman venait de convaincre le roi Assuérus d'adopter une loi mettant en péril tous les Juifs vivant à Suse, Esther, qui avait été élevée à la position de reine de Perse, a reçu un message de son père adoptif Mardochée, et dans ce message, il lui a demandé d'intercéder pour son peuple.
Le cœur d'Esther est touché par cet appel de Mardochée. Elle comprend qu'elle doit passer à l'action sans tarder, qu'il n'y a pas une seule minute à perdre. C'est ce qu'on peut lire dans le livre d'Esther, chapitre 4, les versets 15 à 16. Esther fit répondre à Mardochée « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. » Rassembler tous les Juifs, voilà ce que Esther dit. On remarque que Esther n'agit pas toute seule. Elle comprend qu'elle fait partie d'une communauté. Elle réalise l'importance d'être unie, d'être d'un même cœur. Elle lance un appel pour faire un jeûne de 3 jours avec un sentiment d'urgence. Quand il y a des temps difficiles, il faut des mesures radicales. Rien n'est plus important à ce moment-là. Elle se dit que ce n'est pas le moment de s'adonner à des choses futiles. La prière n'est pas mentionnée explicitement ici, mais j'ai aucun doute qu'elle faisait partie de ce jeûne, que c'est bien ce que le peuple a fait. Avant d'aller se présenter au roi de Perse, Esther s'adresse au roi de l'univers, celui qui élève et qui renverse les rois ici-bas. Et on voit clairement que la prière et le jeûne n'étaient pas une fin en soi. Ils ne faisaient que préparer le chemin pour que Esther puisse agir et pour que Dieu intervienne en sa faveur et en faveur de son peuple. Donc elle dit au verset 16 « Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. » Eh bien, voilà une femme qui joue le tout pour le tout. Ce n'est ni par demi-mesure, ni par engagement mitigé. Elle met tout en jeu afin de réaliser les plans de Dieu pour sa vie. Même si ça veut dire perdre la vie. En étudiant ce texte, de manière providentielle, je suis tombée sur un message du pasteur et théologien Tim Keller. Ce message mentionnait brièvement Esther, et il y avait quelque chose qui m'a profondément marquée. Tim Keller parlait du fait que Esther était prête à quitter le palais et à risquer sa vie pour sauver son peuple, et puis il a fait un parallèle avec Jésus qui, lui, a réellement quitté son palais céleste et a donné sa vie pour sauver son peuple. Donc, dans ce passage du livre d'Esther, on a une préfiguration de ce que Jésus a fait dans l'Évangile. On sait que Dieu est intervenu de façon surnaturelle. Je ne vais pas revenir sur toute cette partie de l'histoire, mais le peuple juif a été épargné de l'anéantissement, Mardochée a été élevé, Aman le coupable a été jugé. Et nous avons là un chapitre important dans l'histoire de la rédemption. Alors que nous réfléchissons ensemble à ce que ça veut dire être de véritables femmes de Dieu aujourd'hui, j'aimerais brièvement relever plusieurs enseignements clés que l'on peut tirer de l'histoire d'Esther. Je vais simplement les énumérer et vous pourrez retourner vous-même au texte pour les méditer plus en profondeur. Premièrement, nous sommes en pleine bataille. Dans cette histoire, on peut voir, à travers le décret d'Aman, comment Satan a essayé d'anéantir la lignée du Christ. Il menaçait la continuité des desseins de Dieu dans l'histoire de la rédemption, le futur du peuple choisi de Dieu, et même la venue du Messie. C'était Satan qui était derrière Aman, en cherchant à écraser la lignée qui menait à Christ. Donc la véritable bataille n'était pas entre Aman et Mardochée, ce n'étaient que des pions sur l'échiquier, entre guillemets. Des symboles d'un conflit bien plus vaste entre deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de ce monde dirigé par Satan. La bataille que nous menons, elle n'est pas contre les militantes féministes, ce ne sont pas elles nos ennemis. Notre bataille n'est pas contre les hommes, ce ne sont pas eux les ennemis. Elle n'est pas contre les pouvoirs humains, les partis politiques ou la culture sécularisée. Nous sommes engagés dans une bataille spirituelle et nous devons garder les yeux fixés sur cette réalité. Deuxièmement, les armes et les tactiques du royaume de ce monde sont totalement différentes de celles du royaume céleste. D'un point de vue humain, donc sur la scène humaine, le monde s'appuie sur des armes comme le pouvoir terrestre, les lois et les décrets humains, la puissance militaire, l'autosuffisance, la colère, la force, la tromperie, ça, ce sont les instruments et les armes du monde. Mais les enfants du royaume de Dieu remportent la victoire par l'humilité, par la prière, par le jeûne, par le sac et la cendre, si on reprend l'expression biblique, par une dépendance totale à Dieu. Je crois que c'est important que vous vous rappeliez cela. Et rappelez-vous aussi que quel que soit le résultat des élections, de l'économie, quelle que soit votre situation personnelle, la véritable bataille, elle se mène et elle se gagne dans le domaine spirituel avec des armes et des tactiques spirituelles. Troisièmement, Dieu a un plan souverain de rédemption et son plan, il ne va pas échouer. Dieu a un plan pour votre vie, un plan pour votre famille, un plan pour son peuple, un plan pour notre monde, pour révéler la gloire et la splendeur de cette grâce qui nous sauve en Jésus-Christ. Il a un plan pour remplir la terre de sa gloire. Et ce plan-là, il ne va pas échouer. Rien ne peut l'arrêter, rien. Ni une crise économique, ni un mari qui ne marche pas avec Dieu, ni aucune épreuve, rien ne peut contrarier le plan de Dieu. Même quand vous ne voyez pas sa main, quand tout semble immobile, Dieu est toujours à l'œuvre dans les coulisses pour accomplir ses desseins. Et nous savons qu'il remportera le combat. Quatrièmement, par la foi et l'obéissance, vous pouvez participer au plan de Dieu. Il y a des moments où on se sent impuissant. On peut être dépassé par la situation, être entouré de plein de gens qui ne respectent pas Dieu. On peut être submergé par les ténèbres, par la méchanceté. J'aimerais vous dire, vous vous sentez peut-être comme un simple pion sur un échiquier qu'on déplace ici ou là. Mais ne sous-estimez jamais la puissance de Dieu, ni l'importance et l'impact potentiel de votre foi, de vos prières, de votre fidélité et de votre obéissance. Une seule femme peut avoir une immense influence. Une Esther, une Marie, une Sarah, une Ruth, une Déborah, remplie du Saint-Esprit et qui dit « Oui Seigneur, je suis disponible pour accomplir tes plans ». Ne croyez jamais que votre vie ne peut pas faire de différence. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre saison de vie, ne pensez pas que vous ne pourrez pas faire de différence dans le royaume de Dieu. Il vous a placé dans son royaume pour un temps comme celui-ci. Alors soyez courageuse, prête à faire un pas de foi quand vient le moment de parler ou d'agir. Et il y a un cinquième enseignement que l'on peut tirer aussi de ce livre d'Esther. Il n'existe pas de situation trop désespérée pour Dieu. S'il y a bien une histoire qui avait l'air d'être sans espoir, c'était bien celle d'Esther. Réfléchissez un peu. Elle était orpheline dès son enfance. Elle a été emmenée de force dans un harem. Elle a été mariée à un roi cruel, arrogant, visiblement alcoolique. Et puis elle a été confrontée à un décret qui ordonnait l'extermination de tous les Juifs, son peuple. C'était une situation désespérée qui allait finir tragiquement. Mais rien de ce qui se fait sur terre ne se fait sans la permission de Dieu. J'espère que vous avez bien compris ça et que vous vous en souviendrez la prochaine fois que vous serez confronté à des épreuves. Tout est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui tient toutes choses entre ses mains. C'est également ce qu'a affirmé le prédicateur John Piper. Dans chaque situation, Dieu est toujours en train de faire quelque chose. Mille choses que vous ne voyez pas et que vous ne savez pas. Ça, on pourrait l'écrire pour s'en rappeler, non seulement dans un petit carnet, mais aussi sur la tablette de notre cœur. Attendez-vous à ce que Dieu agisse. Attendez le moment propice qu'il vous montre. Et souvenez-vous que vous ne remporterez aucune victoire en harcelant, en poussant, en criant, en hurlant, en manipulant, en vous plaignant ou en culpabilisant. Peut-être que de telles attitudes peuvent vous donner ce que vous voulez immédiatement, mais elles ne vont gagner aucune bataille pour le royaume de Dieu. On a souvent tendance à justifier notre comportement quand on devient irritable ou quand on hausse le ton, surtout dans des circonstances critiques. Dans ce monde, actuellement, on entend beaucoup de cris, de colère, mais ça ne devrait pas venir de la part du peuple de Dieu. Ni dans notre mariage, ni sur la scène nationale, ni dans la blogosphère. On devrait plutôt y trouver cette douceur, cette humilité de cœur qui reflète cette force maîtrisée en nous, la puissance de Dieu sous son contrôle. Esther se trouve donc dans des circonstances les plus désespérées, face à la menace réelle de la mort, et pourtant elle maîtrise remarquablement sa langue et ses émotions. En elle, il n'y a ni précipitation, ni agitation excessive, ni explosion hystérique, elle fait preuve d'une maîtrise de soi impressionnante, parce qu'elle sait que le royaume de Dieu est en action. Je sais que je me répète, mais je veux le dire encore et encore pour que vous ne l'oubliez jamais. Sixièmement, ne jugez pas l'issue de la bataille en vous basant juste sur le moment présent. Comme à l'époque, on l'a vu avec Mardochée et Aman, à l'heure actuelle, les méchants prospèrent souvent, tandis que les justes souffrent. Alors ne vous laissez pas abattre quand vous voyez cela se produire. Rappelez-vous que les choses ne seront pas toujours telles qu'elles sont maintenant. Dans les premières scènes de l'histoire d'Esther, les méchants font la fête, tandis que les justes pleurent. Mais à la fin de l'histoire, les méchants sont jugés et ce sont les justes qui, à leur tour, font la fête. Bibliquement, c'est une préfiguration de ce qui est encore à venir. Alors est-ce que vous êtes prête pour ce jour? Aujourd'hui, les méchants sont en position élevée, mais un jour, ils devront rendre des comptes. Il y aura un jugement final. Maintenant, les justes souffrent, mais un jour, il y aura le triomphe du royaume de Dieu. Symboliquement, il y a cette image de Christ qui apparaît dans les nuées, monté sur son cheval blanc, et il viendra pour régner. Il y aura une joie éternelle pour le peuple de Dieu. À la fin, c'est ce qu'on peut lire dans le psaume 58, verset 11, « Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge la terre. » D'ailleurs, nous n'avons pas encore lu la scène finale. Nous n'en avons qu'un aperçu. Nous ne l'avons pas encore vue se réaliser, même si elle est déjà écrite. Il n'y a aucun mystère au ciel. Dieu a rédigé la scène finale dans l'éternité. Et elle est en train de se dérouler sous nos yeux dans l'histoire humaine. Le moment est venu. Nous croyons que Dieu suscite un mouvement de réforme et de réveil dans les cœurs, dans les foyers des femmes chrétiennes partout dans le monde. Il y en a beaucoup qui nous rejoignent aujourd'hui, y compris à travers Internet. On veut vous donner la possibilité de vous lever avec nous et de dire « c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous affirmons, nous voulons faire partie de cette révolution contre-culturelle pour reprendre le terrain qui a été cédé à la pensée du monde depuis tellement d'années ». Ça peut vous paraître tout à fait impossible aujourd'hui, mais dans la réalité quotidienne, quand votre entourage pense que vous êtes folle à cause de ce que vous croyez, parce que vous ne parlez pas comme les autres, parce que vous ne vivez pas comme les autres, parce que vous n'avez pas les mêmes attitudes que les autres, ça peut devenir difficile. Il y a de l'opposition qui vous attend, même parmi des femmes chrétiennes. Soit qu'elles ne sont pas d'accord avec vous, soit qu'elles trouvent ça totalement dépassé ou qu'elles se demandent « mais est-ce que c'est vraiment des choses si importantes que ça ?» Mais dans votre cœur, vous savez que oui, c'est important. Vous savez que c'est vrai. Mais peut-être que vous vous sentez tellement seul dans vos convictions que ça semble presque impossible de tenir ferme. Et quand vous ressentez ça, rappelez-vous d'Esther. Esther qui a été élevée par Dieu pour un temps comme celui-ci, afin de faire une immense différence dans son monde. Une jeune femme ordinaire, comme tant d'autres, avec un passé difficile, à qui Dieu a donné du courage et de la foi. C'est grâce à sa soumission, à son obéissance, qu'une seule femme, dans le plan divin, a permis à des millions de personnes d'échapper à la destruction. Alors aujourd'hui, il y a tellement de femmes, même des chrétiennes, qui sont désorientées, qui ne vivent pas la liberté, l'épanouissement, la plénitude en Christ. Il y a beaucoup de femmes véritablement désespérées, même au sein de l'Église. Pourtant, dans sa parole, Dieu nous a donné un message de grâce et d'espérance. Voilà pourquoi je crois, et que je me permets de le répéter, que Dieu vous a placé dans ce royaume, son royaume, pour un temps comme celui-ci. Et ça veut dire, pour vous, être prête à aller à contre-courant. Pour vous, les jeunes filles, ça veut dire être prête à suivre le Christ et sa parole, même quand toutes les autres filles de votre âge ont l'air complètement obsédées par les critères de la beauté extérieure, par les garçons, par elles-mêmes, par le sexe, le plaisir immédiat. Ça veut dire, pour vous, fixer votre attention et votre affection sur Christ. Ça veut dire garder votre cœur. Ça veut dire choisir le chemin de la pureté de cœur. Ça veut dire devenir une porte-parole de la vérité dans votre génération, alors que la pression du conformisme va dans la direction opposée. Et je m'adresse aussi à vous qui êtes célibataires. Pour vous aussi, ça veut dire aller à contre-courant. C'est choisir le chemin du contentement, que ce soit en vous mariant ou en restant célibataire, selon ce que Dieu a prévu pour vous, pour sa gloire et pour l'avancement du royaume. Et ça veut dire également que, en tant que célibataire, c'est utiliser votre temps et votre liberté pour servir le Seigneur. Ça veut dire être prête à rester pure sexuellement, quel que soit votre âge. Ça veut dire servir au sein de la famille de Dieu. Je crois que certaines femmes célibataires ont reçu un appel particulier de Dieu pour mettre leurs dons et leur formation au service d'une vocation chrétienne, voire même porter l'Évangile aux quatre coins du monde, comme l'ont fait beaucoup de célibataires avant nous. Et pour vous qui êtes mariés, c'est également un appel à aller à contre-courant. C'est un appel à être fidèle dans un monde où il y a tellement de promesses qui n'ont pas été tenues. Un appel à aimer votre mari, à prier pour lui, à bâtir avec lui un mariage qui glorifie Dieu. Un appel à rester fidèle dans les bons moments comme dans les épreuves. Ça signifie dire oui à votre rôle élevé et sacré d'être une aide pour votre mari, de le respecter et de vous soumettre à lui comme l'Écriture nous y encourage, comme une illustration vivante de notre soumission à Christ lui-même. Ça veut dire aussi vous donner pleinement à votre mari et dire non à toute intimité émotionnelle ou physique avec un autre homme que lui. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez juste suivi le courant, vous avez suivi vos émotions, ce qui vous paraît naturel, mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à rompre ces attachements qui ne lui plaisent pas et à dire oui à la fidélité, même si ça veut dire aller à contre-courant. Et pour vous qui êtes des mamans, aller à contre-courant, ça veut dire embrasser votre appel et le don précieux d'être celle qui donne la vie, celle qui la nourrisse. Ne laissez pas le monde vous dicter combien d'enfants vous devriez avoir, ou de vous dicter si vous devriez en avoir ou pas. Laissez Dieu vous convaincre de l'impact que vos enfants et vos petits-enfants pourraient avoir sur son royaume pour les générations à venir. Et ça veut dire être prête à livrer bataille pour leur âme en priant « Seigneur, nous ne laisserons pas l'ennemi s'emparer de cette nouvelle génération. Nous voulons qu'elle t'appartienne. » Et pour vous, les femmes plus âgées, aller à contre-courant, c'est faire le choix de ne pas prendre votre retraite spirituelle. Ne vous contentez pas d'une vie principalement occupée par des divertissements ou par des activités frivoles, ou par une préoccupation démesurée de vous-même. Oui, je m'adresse particulièrement à vous, les femmes âgées. J'aimerais vous dire, mesdames, les femmes plus jeunes, elles ont besoin de vous. Elles ont besoin de votre sagesse, de vos conseils, de vos encouragements, de vos prières. Elles ont besoin que vous les preniez sous votre aile et que vous puissiez les aider à mener une vie qui plaise au Seigneur. Elles vont pouvoir rester en contact avec vous au fil du temps. Vous allez pouvoir être pour elles une des partenaires de prière les plus fidèles. Vous allez pouvoir les former dans la foi. Ces jeunes femmes, elles vont pouvoir vous voir vieillir avec grâce, livrer la vraie bataille, rester attachées à Christ et continuer à grandir spirituellement. Et puis, un petit mot encore pour celles d'entre nous qui font partie de la génération des baby-boomers. Une génération unique par son grand nombre, par son énergie, ses capacités et ses multiples possibilités. C'est la plus grande génération qu'on ait jamais connue et probablement la plus grande qu'on ne connaîtra jamais en raison du contrôle et de la diminution des naissances. On a une force immense, nous les femmes de cette génération, qui avons une occasion exceptionnelle d'investir notre temps et nos ressources dans le royaume de Dieu. Et je crois profondément qu'au sein de ces millions de personnes, Dieu est en train de susciter un puissant mouvement de femmes capables de remporter des batailles sur de nombreux fronts pour Christ. Je crois que quelque chose ou quelqu'un va attirer l'attention et l'affection de cette génération à mesure qu'elle avance en âge. Alors prions ensemble pour que Dieu suscite une armée de femmes de Dieu parmi cette génération-là.
Quelle que soit la période de vie dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, Dieu a un plan et un dessein pour vous spécifiquement. J'espère que le message qu'on vient d'entendre vous encourage à vous lever et prendre la place que Dieu vous attribue, que vous avez été encouragé à vous fortifier en Dieu pour pouvoir aller à contre-courant et à contribuer à l'édification du royaume de Dieu. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu vous a appelé. Cette histoire puissante qu'on lit dans le livre d'Esther nous invite à mettre toute notre confiance en Dieu. Et j'aimerais vous inviter à prendre un moment pour répondre de façon très personnelle à cet appel et d'y répondre avec foi. Car vivre selon la parole de Dieu, c'est comme marcher à contre-courant dans un monde qui va dans la direction opposée. J'ai hâte d'entendre la suite de ce message et j'espère vous aussi. Et alors on se retrouve la prochaine fois pour le troisième épisode de « Pour un temps comme celui-ci » avec Réveille nos cœurs. À très vite!
Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman.
Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.